Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant la sainteté. Nous arrivons à l'étude numéro 16 et notre thème sera la place de la discipline personnelle. Il est dit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7, « Quant aux fables impies, qu'aux mirages de vieilles femmes, rejette-les. Exerce-toi plutôt à la piété. Exerce-toi veut dire « aie de la discipline pour pratiquer la piété ». Voyez-vous, il est possible de se forger des convictions sur une vie de sainteté et même de prendre un engagement précis dans ce sens, tout en passant à côté de l'objectif. La vie, elle est semée de résolutions brisées. Par la grâce de Dieu, nous pouvons prendre la décision de renoncer à une certaine habitude de péché, pensée impure par exemple, critique de nos frères et sœurs ou autres. Mais hélas, bien trop souvent, notre démarche reste dépourvue de succès, car nous ne faisons pas les progrès auxquels nous aspirons si ardemment. Le docteur Jay Adams, il met en évidence ce problème. Il dit « Il se peut que vous cherchiez à obtenir une piété instantanée, simplement en quelque sorte en claquant des doigts. Or une telle chose n'existe pas. Nous aimerions qu'on nous indique en trois étapes faciles le chemin vers la piété, établi, on peut dire, ou étable que nous suivrons dès le lendemain. Alors il y aura la réussite qui sera assurée. Évidemment, l'ennui, mes chers amis, voyez-vous, c'est que la piété ne s'acquiert pas simplement en se disant « je serre les dents et ça va être exécuté ». Le docteur Adam poursuit en montrant qu'on n'acquiert la piété qu'au moyen de la discipline chrétienne. Pourtant, le concept même de discipline a quelque chose de suspect, surtout dans la société actuelle. Il semble aller à l'encontre de l'insistance sur la liberté en Jésus-Christ et on y suspecte souvent du légalisme et beaucoup de rigueur. Or, l'apôtre Paul, il nous recommande de nous former ou de nous discipliner à la sainteté. Notez 1 Timothée, chapitre 4, verset 7. La métaphore que l'apôtre Paul utilise, elle vient de l'entraînement physique que suivaient les athlètes grecs. L'apôtre Paul déclare que tous les athlètes s'imposent en quelque sorte une assesse, un système rigoureux, une discipline rigoureuse. Notez 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25. Telle était donc l'attitude qu'il adoptait dans sa vie et que tout chrétien devrait adopter. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24 jusqu'au 27 est dit « Si un athlète se discipline pour gagner un prix terrestre, à combien plus forte raison nous les chrétiens, devrions-nous nous discipliner pour obtenir une couronne qui dure non pas pour 70 à 80 ans, mais pour l'éternité. Alléluia, je répète. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. Il est dit que si un athlète se discipline pour gagner un prix terrestre, à combien plus forte raison pour nous, les chrétiens, devrions-nous nous discipliner pour obtenir une couronne qui dure pour l'éternité? Comme l'indiquent ces versets, la discipline est donc une formation structurée qui corrige, qui façonne et qui perfectionne. Ce sont des facultés mentales et également qui doivent façonner notre caractère moral. Donc, c'est ce que nous avons à faire dans notre quête de la sainteté. La discipline en vue de la sainteté, elle commence par la sainte parole de Dieu. L'apôtre Paul déclare « Toute l'écriture sainte est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice. » 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Le dernier point qu'il mentionne concerne l'éducation ou la discipline en vue de nous rendre justes. C'est là l'œuvre des Saintes Écritures à condition de les utiliser. Le docteur Jay Adams dit: si aux exigences des Saintes Écritures nous répondons par une obéissance spontanée, persévérante et fortifiée par la prière, alors là, nous acquérons de bonnes habitudes qui s'intègrent à notre personnalité. Nous lisons du reste dans la Sainte Bible: vous avez été instruits, est-il dit, à vous dépouiller du vieil homme, évidemment, et à être renouvelé par la transformation spirituelle de votre intelligence et revêtir ainsi l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et dans la sainteté qui viennent de la vérité. Notez Éphésiens, chapitre 4, versets 22 à 24. Où apprenons-nous toutes ces choses-là? Eh bien, uniquement dans la sainte parole de Dieu. La discipline en vue de la sainteté, elle débute par les saintes écritures, par un plan structuré de lecture régulière de la Sainte Bible, suivi d'une application à notre vie quotidienne. Dans ce domaine, notre coopération avec l'Esprit Saint est très claire. Je vous donnerai, si vous voulez bien, un schéma de cette interaction très simple. Par exemple, l'Esprit Saint a rédigé les Saintes Écritures, donc, nous étudions les Saintes Écritures. L'Esprit Saint fait venir à notre esprit ce que nous avons appris, et nous appliquons ce qu'il nous a rappelé. Voyez-vous, une bonne partie du travail de l'Esprit Saint consiste donc à nous fournir les Saintes Écritures en vue de nous discipliner. disciplinés. Grâce à l'instruction que nous en tirons, il nous rappelle ce que nous avons besoin de savoir pour affronter les tentations. Tandis que nous cherchons à appliquer la Sainte Parole à nos situations quotidiennes, il agira en nous pour nous fortifier. Eh oui! Mais évidemment, nous devons nous attendre à ce qu'il fasse davantage. Nous voyons donc que nous devons discipliner notre vie en l'alimentant sainement et régulièrement par la Sainte Parole de Dieu. Je répète, nous voyons donc que nous devons discipliner notre vie en l'alimentant sainement et régulièrement par la Sainte Parole de Dieu. Il nous faut donc réserver chaque jour simplement un moment précis pour lire ou étudier la Sainte Bible. Tout chrétien qui fait des progrès en sainteté est une personne qui passe régulièrement du temps dans la Sainte Parole. C'est le seul moyen pour arriver à la sainteté. Voyez-vous, Satan, notre ennemi, il nous attaquera toujours à ce niveau-là. Le matin, Satan cherchera à nous convaincre que nous avons beaucoup trop sommeil. Pendant la journée, que nous sommes bien trop occupés. Et le soir, que nous sommes terriblement fatigués. On dirait que nous n'avons pas un seul moment qui puisse être réservé à la Sainte Parole de Dieu. Il faudra donc, évidemment, vous l'avez compris, il faudra donc nous discipliner pour trouver ce moment dans notre emploi du temps quotidien. Personnellement, je constate que le moment le plus profitable pour lire la Sainte Parole, c'est pour présenter également mes soucis, car nous en avons tous, ainsi que nos besoins à Dieu. Ça, à mon avis, c'est tôt le matin, avant le petit déjeuner. Faire tout cela avant le petit déjeuner, cela exige que je me lève peut-être à 5h, 5h30 du matin. Évidemment, je ne peux plus faire ça maintenant à passer 90 ans. J'espère que vous le comprenez. Voyez-vous, ce n'est pas facile. Il faut également que je me discipline dans mes soirées. Que ce soit avant ou après le petit déjeuner, le matin ou le soir, il importe que notre emploi du temps prévoie cette nourriture quotidienne par la Sainte Parole de Dieu. Recevoir l'instruction des Saintes Écritures, ça requiert non seulement un moment précis, mais aussi une méthode précise. Les méthodes d'assimilation de la Sainte Parole de Dieu peuvent être classées en 4 catégories, c'est-à-dire écoute de la Sainte Parole, enseignée par ceux qui ont la charge de l'enseigner. Jérémie chapitre 3, verset 15. Ensuite, la lecture personnelle des Saintes Écritures. Deutéronome chapitre 17, verset 19. Ensuite, l'étude approfondie, Proverbes chapitre 2, verset 15. Ensuite, mémorisation des passages clés, Psaume 119, verset 11. Évidemment, n'attendez pas plus de 90 ans comme c'est mon cas pour commencer tout cela, bien entendu. J'espère que vous avez compris mon humour. Chers amis, tous ces éléments sont requis pour que nous tirions une instruction équilibrée des Saintes Écritures. Dieu habilite et forme tous ceux qui doivent enseigner tout le conseil de Dieu. Donc tous ceux qui doivent enseigner le conseil de Dieu, croyez-moi, le Saint-Esprit va les aider. Ah oui, j'en sais quelque chose. La lecture de la Sainte Parole nous donne une perspective générale sur la vérité divine, alors que l'étude d'un passage ou d'un thème nous permet d'approfondir davantage une vérité particulière. Dieu a dit à Josué, qui était devenu chef d'Israël, il lui a dit, « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu le murmureras jour et nuit afin de veiller à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit. » Josué chapitre 1 verset 8. Bien entendu, si nous lisons cela calmement, comme je viens de le faire, pour vous, eh bien, on pourrait penser qu'il faudrait donc murmurer tout le jour et même la nuit tout ce que le Seigneur nous donne dans sa sainte parole à faire, par inspiration évidemment de l'Esprit Saint. Mais Dieu sait très bien que nous vivons dans un siècle de vitesse épouvantable où il faut faire 36 000 choses à la fois. Donc, bien sûr, nous ne pouvons pas faire exactement comme Josué, mais, par exemple, je vous dis simplement ce qui me concerne, comme je ne peux pas dormir beaucoup, c'est, je pense, le cas de tous ceux qui sont très âgés, eh bien, je peux prier. Prier dans mon esprit, car j'ai appris, et vous aussi, que Dieu peut lire nos pensées. Donc, nous pouvons, si nous avons des moments où nous ne pouvons pas dormir très bien, nous pouvons tout simplement prier, murmurer des choses au Seigneur, de ce que nous avons sur le cœur. C'est merveilleux. Et le Seigneur, il nous entend, il nous écoute, il nous aime. Méditer la Sainte Bible, c'est réfléchir sans cesse à tous ces enseignements pour l'appliquer ensuite aux situations concrètes. Malheureusement rares, très rares sont ceux qui méditent les Saintes Écritures aujourd'hui. Pour la plupart des gens, il s'agit d'une occupation qui est réservée à la vie monastique. Il faudrait que nous soyons dans un monastère ou chez les sœurs carmélites, va savoir. Or Josué, le très occupé commandant en chef de l'armée d'Israël, il reçoit pour conseil de méditer la loi de l'Éternel jour et nuit. Cette pratique de la méditation, réflexion et application pratique, elle doit être développée à travers la discipline. Il faut de nouveau la discipline. Je m'excuse, ça va énerver certains qui écoutent maintenant. Voyez-vous, la plupart d'entre nous pensent que nous n'avons pas le temps, mais il y a quantité de minutes durant la journée qui nous donnent l'occasion de méditer si nous en prenons l'habitude. C'est là le problème. En règle générale, l'obéissance à la Sainte Bible nécessite un changement de style de vie. Et oui, comme nous sommes pécheurs par nature, moi le premier, nous avons adopté certains comportements faits de mauvaises habitudes. Seule la discipline pourra nous en débarrasser, pourra en venir à bout. À nouveau, le mot discipline. Je sais que je vais énerver certains, mais c'est la vérité. On ne peut pas simplement s'asseoir dans un fauteuil et siroter tranquillement quelque chose qui nous fait plaisir. Pour les uns, ça peut être un tout petit verre de whisky, ça peut arriver, il ne faudrait pas trop quand même. Pour d'autres, une tasse de café, là aussi, une tasse de café, oui, mais pas 3-4 tasses de café, évidemment. En toute chose, nous devons avoir une certaine discipline et de retenue. Chers amis, nos habitudes de désobéissance à Dieu, cela remonte à bien des années, et cela ne peut être brisé que par le moyen de la discipline. Je regrette beaucoup, mais c'est la vérité. Et celle-ci, cependant, elle ne consiste pas à se serrer simplement les dents et à se dire, eh bien, je ne le ferai plus, plus jamais, c'est terminé. J'ai eu l'habitude de fumer 20 cigarettes par jour, eh bien, je vais serrer les dents et je me dis simplement, c'est terminé, fini, adios. Eh bien, ça ne se passe pas toujours comme ça. Cela relève plutôt d'une approche structurée semblable à celle que vous avez établie pour lire ou étudier régulièrement la Sainte Bible, de nouveau une méthode de discipline. Voyez-vous, pendant que vous écoutez, pendant que vous étudiez et que vous méditez les Saintes Écritures, posez-vous les trois questions suivantes. Essayons. Premièrement, quel est l'enseignement de ce passage sur la volonté de Dieu pour une vie de sainteté? Deuxièmement, dans quelle mesure ma vie satisfait-elle aux exigences des Saintes Écritures? Plus précisément, dans quel domaine est-elle particulièrement défaillante? Là, nous devons être précis et ne restez pas au niveau des généralités seulement. Et troisièmement, quelle initiative précise ai-je besoin de prendre pour être obéissant? Pour être obéissant. La partie essentielle de cette réflexion, c'est l'application précise des Saintes Écritures à des situations précises de notre vie. Nous avons tendance tous à rester dans le vague, car nous sommes mal à l'aise à l'idée de nous engager dans une voie clairement définie. Évitons donc de prendre des résolutions générales, mais recherchons plutôt l'obéissance dans des domaines très précis. Nous nous faisons des illusions. Oh oui, quand nous grandissons dans la connaissance de la vérité sans la mettre véritablement en pratique. Notez Saint Jacques, chapitre 1, verset 22. Nous risquons de tomber dans l'orgueil spirituel, selon 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 1. Supposons que vous méditez, par exemple, 1 Corinthiens, chapitre 13. C'est le plus connu de tous. C'est le grand chapitre qui parle de l'amour. Alors, plongez dans ce chapitre, vous vous rendez compte de l'importance de l'amour et vous voyez aussi ses manifestations pratiques. Que l'amour est par exemple patient, généreux et que l'amour n'envie personne. Et vous vous demandez, suis-je impatient? Suis-je vraiment égoïste ou envieux à l'égard de quelqu'un? Et en y réfléchissant, vous vous rendez compte qu'au bureau, vous êtes jaloux, de René. René qui va de réussite en réussite. Alors vous confessez ce péché à Dieu en n'oubliant pas de mentionner le nom de René et votre réaction face à la chance insolente qu'il a. Vous demandez à Dieu, tout simplement, de continuer de le bénir encore davantage. Ça vous paraît peut-être incroyable et stupide, et de vous donner un esprit de contentement pour que vous puissiez cesser tout simplement d'être jaloux de René et que vous puissiez commencer à l'aimer. Pourquoi pas? Vous apprenez par cœur 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4 afin d'y penser quand vous voyez René au travail. Vous cherchez même des moyens de l'aider. Et oui, vous agissez ainsi jour après jour. Et finalement, vous verrez Dieu susciter en votre cœur même de l'affection pour René. Je suis d'accord, cela n'est pas vraiment évident. C'est cela, voyez-vous, une sorte de discipline en vue de la sainteté. Vous ne mettrez jamais à mort cet esprit d'envie à l'égard de René, sans un plan structuré et de la discipline pour y parvenir. Cet entraînement structuré en vue de la sainteté, c'est un processus qui engage toute une vie. Et voilà pourquoi l'une des composantes nécessaires à la discipline s'appelle la persévérance. Je répète, parce que cela est important, apprenez cette phrase par cœur. Voilà pourquoi l'une des composantes qui est nécessaire à la discipline, elle s'appelle la persévérance. Toute formation physique, mentale ou spirituelle se caractérise par des échecs, on peut dire nombreux. Nous échouons beaucoup plus souvent que nous réussissons. Mais, si nous persévérons, nous constatons peu à peu des progrès et le jour va venir, où nos succès sont beaucoup plus fréquents que nos échecs. Changement total. Dans la mise à mort des péchés précis, il nous semble au début que nous ne faisons absolument aucun progrès, alors que nous décourageons et nous disons, oui, parce que nous nous décourageons, parce que pour finir, ça devient pénible, et nous nous disons, à quoi bon tout cela? Je ne pourrai jamais triompher de ce péché particulier. Eh bien, c'est exactement ce que Satan veut nous faire croire. Et c'est à ce moment-là mes chers amis, qu'il nous faut de la persévérance. Nous sommes toujours en quête du succès instantané. Claquant des doigts, et puis hocus pocus, ça doit arriver. Mais ce n'est pas ainsi que s'obtient la sainteté. Ne nous débarrasserons pas du jour au lendemain de certaines habitudes de péché. C'est à force d'opiniâtreté et de persévérance que le changement se produit dans notre vie. Je répète, c'est donc à force d'opiniâtreté et de persévérance que le changement va se produire dans notre vie. Jonathan Edwards, un très grand homme de Dieu, qui avait pris la résolution de ne jamais faire quoi que ce soit dont il aurait honte à la dernière heure de sa vie. Il a aussi pris l'engagement suivant. Il était résolu de ne jamais renoncer à la lutte contre ses corruptions, ni de se relâcher dans le moins du monde, aussi infructueux que soient ses efforts. À première vue, ces deux résolutions paraissent quelque peu contradictoires. Si Jonathan Edwards était déterminé à refuser tout acte qu'il ne devait pas commettre, pourquoi déclare-t-il ne jamais vouloir abandonner la bataille malgré les échecs qu'il enregistrait? N'était-ce pas sincère? Il était sincère en prenant la première résolution, si bien, bien sûr, mais il savait aussi très bien que ses échecs seraient nombreux et qu'il aurait besoin de persévérance. Il a donc résolu en premier lieu de chercher à mener une vie sainte et en second lieu de persévérer en dépit, je dis bien, des revers qu'il ne manquerait pas de subir. Je me sers souvent du texte de Proverbe chapitre 24, verset 16, lorsque je me trouve en situation d'échec, c'est-à-dire avec mes propres péchés, car le juste pourra tomber 7 fois, mais il se relèvera, tandis que les méchants perdent pied dans le malheur. La personne qui se discipline en vue de la sainteté tombe de nombreuses fois. J'en sais aussi quelque chose. Mais elle ne baisse pas les bras, car après chaque défaite, elle se relève et elle poursuit la lutte. Et il en va évidemment pas de même de ceux qui sont injustes. L'injuste trébuche dans son péché et il commence à renoncer totalement à lutter. Il n'a donc pas assez d'énergie pour triompher, car l'Esprit Saint de Dieu n'est pas à l'œuvre en lui. Voyez-vous, l'un des chapitres de la Sainte Bible qui nous gêne le plus, c'est celui de Romains chapitre 7. Les chrétiens se demandent sans arrêt comment ils peuvent sortir de Romains 7 pour entrer dans Romains chapitre 8. Si nous n'aimons pas Romains chapitre 7, c'est parce que ce chapitre reflète si fidèlement nos propres luttes, mes propres luttes avec le péché. Nous n'aimons guère l'idée qu'il nous faille nous battre contre le péché. Je répète, nous n'aimons pas du tout l'idée qu'il faut que nous nous battons contre le péché. Voyez-vous, nous voulons la victoire instantanée en claquant des doigts. Nous voulons marcher selon l'Esprit et lui laisser remporter la victoire. C'est donc Dieu qui doit tout faire. C'est lui qui doit faire le premier pas. C'est bizarre, car c'est contraire à la sainte parole de Dieu. Dieu, par contre, veut que nous persévérions dans la discipline en marchant vers la sainteté. Je répète, Dieu veut que nous puissions persévérer dans la discipline en marchant vers la sainteté. Certains ont l'impression que des affirmations de l'apôtre Paul comme « ce que je veux, je ne le fais pas », mais ce que je haïs, ce que je hais, eh bien je le fais. Romains chapitre 7, verset 15. Tout cela semble beaucoup trop catégorique pour un chrétien qui marche dans l'Esprit Saint. Mais quel chrétien oserait nier que ce passage reflète souvent sa propre expérience? En vérité, plus nous voyons révéler la sainteté de Dieu, notre Père céleste, et sa loi dans les Saintes Écritures, plus nous allons reconnaître notre éloignement de l'objectif qu'il nous a assigné. Ésaïe, rappelez-vous, il était prophète de Dieu. Il marchait dans la sainteté des commandements divins. Or, en voyant l'Éternel dans sa sainteté, il a été obligé de s'écrier « Malheur à moi, car je suis perdu. Oui, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur, le Tout-Puissant. » Ésaïe chapitre 6, verset 5. En effet, nous sommes, vous et moi, plus que jamais, au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Ça, c'est une vérité. À mesure que nous grandissons dans la connaissance de la sainteté de Dieu, et même si nous grandissons aussi dans la pratique de la sainteté, eh bien, nous avons l'impression que le gouffre entre notre connaissance et notre pratique ne cesse de s'élargir. Ça, c'est la voie de l'Esprit Saint. De l'Esprit Saint pour nous attirer toujours davantage vers la sainteté. Gloire à Dieu. Pour terminer notre étude très courte d'aujourd'hui, sachez que à force de progresser dans la sainteté, nous en arrivons à haïr le péché. Notez psaume 119, verset 104. Et nous arrivons à faire nos délices de la loi de Dieu. Notez Romains chapitre 7, verset 22. Nous sommes donc conscients de la perfection de la loi divine et de la justice qu'il exige de nous. Nous reconnaissons que ces commandements ne sont pas pénibles du tout. Ils ne sont pas impossibles. Notez 1er épître de Jean, chapitre 5, verset 3. Mais ce sont des choses saintes, juste et bonne, selon Romains chapitre 7, verset 12. Mais en même temps, nous sommes évidemment conscients de nos corruptions internes et de nos fréquentes chutes dans le péché. Que croyez-vous, à l'âge de passer 90 ans, j'ai chuté bien des fois, et j'ai honte de vous le dire, parfois même beaucoup. Nous allons donc nous écrier avec l'apôtre Paul. Misérable que je suis, moi, Henri. Selon Romains chapitre 7, verset 24. Et nous avons donc envie maintenant de tout laisser tomber, tout ce qui est du monde. Or, nous n'avons pas le droit de le faire simplement comme ça. Voyez-vous, si nous voulons réussir dans notre quête de la sainteté, il nous faut surtout persévérer, ne pas laisser tomber nos bras tout simplement et de renoncer en se disant, eh bien, moi, je ne peux pas. Eh bien, il nous faut persévérer en dépit de tous nos échecs. Amen. Chers amis, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose avant que nous prions ensemble qui va vous aider pour votre éducation personnelle, pour grandir dans la connaissance du Seigneur et pour vous aider à vous approcher de la sainteté de Dieu. Écoutez bien cela. Préparez-vous à souffrir 1000 adversités, 1000 traverses dans cette misérable vie, car voilà partout ce qui vous attend, ce que vous trouverez partout, en quelque lieu que vous vous cachez, tôt ou tard, vous serez confronté à la croix et à cette foule de maux et de douleurs. Il y a d'autres remèdes que de vous supporter vous-même. Buvez donc avec joie le calice du Sauveur, si son amour vous est cher et si vous désirez avoir part à sa gloire. Laissez Dieu disposer de ses consolations, qu'il les répande comme il lui plaira. Si vous vous appliquez à être ce que vous devez être, à souffrir et à mourir, bientôt vos peines s'adouciront et vous aurez la paix. Quand vous aurez été ravis avec saint Paul jusqu'au troisième ciel, vous ne serez pas pour cela assurés de ne rien souffrir. Je lui montrerai, a dit Jésus, combien il faut qu'il souffre pour mon saint nom. Plût à Dieu que vous fussiez dignes de souffrir quelque chose pour le nom de Jésus. Quelle gloire vous sera réservée, quelle joie parmi tous les saints. Avec quelle joie vous devrez souffrir quelque chose pour Jésus lorsque tant d'autres souffrent beaucoup, beaucoup plus pour le monde. Aujourd'hui même, il paraît qu'une armée a utilisé des choses chimiques, dangereuses et interdites, pour venir à bout de ses ennemis. C'est épouvantable. La souffrance qu'il y a dans le monde, comme jamais. Sachez donc et croyez fermement que votre vie doit être une mort continuelle et que plus on meurt à soi-même, plus on commence à vivre pour Dieu. Nul n'est propre à comprendre les choses du ciel s'il ne se soumet à supporter les adversités pour Jésus-Christ. Rien n'est plus agréable à Dieu. Rien ne vous est plus salutaire en ce monde que de souffrir avec joie pour Jésus-Christ. Et si vous avez à choisir vous devez plutôt souhaiter d'être affligé pour lui que d'être comblé de consolation, parce que vous serez alors plus semblable, oh oui, beaucoup plus semblable à Jésus-Christ et plus conforme à tous les saints. Car notre mérite et notre progrès dans la perfection ne consiste point dans la douceur et l'abondance des consolations, mais plutôt dans la force de supporter de grandes tribulations et de pesantes épreuves. S'il y avait eu pour l'homme quelque chose de meilleur et de plus utile que de souffrir, eh bien Jésus-Christ nous l'aurait appris par ses paroles et par son exemple, car manifestement, il exhorte à porter la croix et les disciples qui le suivaient et tous ceux qui voudraient le suivre, ils disent « Si quelqu'un veut marcher sur les pas de Jésus, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix et qu'il le suive. Après donc avoir tout lu et tout examiné, concluons enfin qu'il nous faut passer par beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et maintenant, prions ensemble. Prions. Nous fléchissons les genoux devant toi, ô Seigneur notre Dieu. Nous nous abandonnons entre tes bras, ô notre Père. Nous voulons croire en toi. Nous voulons te servir. Rien n'est certitude en ce monde, sinon ta sainte volonté. Rien ne nous peut sauver que ta grâce éternelle. Aide-nous à te rechercher avec plus de zèle, à observer tes commandements avec plus d'exactitude, à pratiquer un amour plus sincère et plus vigoureux. Nous plaçons devant toi, ô Seigneur, ce qui nous oppresse et nous inquiète, tels que nos soucis, nos désirs, nos espoirs pour nous et pour nos proches. Nous plaçons devant toi les besoins des pauvres et des malades, des abandonnés et des persécutés, de ceux qui doutent, de ceux qui combattent. Et nous espérons en toi, et notre espérance est uniquement en toi. Nous te donnons ce que nous sommes et ce que nous avons. Remplis-nous de ta grâce, maintiens-nous dans ta main, conduis-nous par ton Saint-Esprit et donne-nous ta paix et ta force par Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Amen. Et chers amis, rappelez-vous que Dieu vous aime. Il vous aime d'un très grand amour. Il aime surtout tous ceux qui ont compris. Un jour, ils ont compris qu'ils étaient perdus, qu'ils étaient pécheurs et qu'ils avaient besoin d'être sauvés. Alors, ils ont accepté la main tendue de Jésus et il leur a dit « Maintenant, tu es mon enfant. Sois tranquille, sois en paix. Et croyez-moi, si Dieu vous aime tellement, il est donc de mon devoir de vous aimer également de tout mon cœur. Et maintenant, oui, droit maintenant, je vous enlace et je vous embrasse tous en vous disant « Oui, je vous aime. » Et je vous dis « Soyez bénis en et par Jésus-Christ. » Amen. Et je voudrais vous mettre un ou deux chants d'un très lointain passé, 1954. Et évidemment, parfois ça fonctionne, parfois pas. Je m'en excuse d'avance. Essayons tout de même. Essayons.
Jesus is coming. Talking to the lama, talking to the lama, singing to the lama, being to the power came down, the power came down, the power came down.
eyes on the sparrow, and he'll surely keep a watch over you. Don't you worry and wonder, in heaven way up yonder, he's looking on, he's faithful and true. The cattle on a thousand hills, the wealth in every mine, all belong to my father, yes they do, sure they do. So don't care for tomorrow, his eyes on the sparrow, and he'll surely keep a watch over you. Oh, don't care for tomorrow, God's eyes on the sparrow, and he'll surely keep a watch over you. Don't you worry and wonder, in heaven way up yonder, he's looking on, he's faithful and true. The cattle on a thousand hills, the wealth in every mine, all belong to my father, yes they do, sure they do. So don't care for tomorrow, his eyes on the sparrow, and he'll surely keep a watch over you. crazy.